Vous êtes sur Studio Zef et c'est l'heure de Feuilles Vives, émission de reportage radiophonique entre ville et campagne. Aujourd'hui dans Feuilles Vives, nous allons à la rencontre de Thomas Grappi et de sa charmante épicerie du Petit Jardin à Blois. Thomas Grappi a 46 ans, né à Blois, il quitte la région pour des études d'histoire avant de s'y réinstaller en 2000. Il acquiert une petite maison au pied du château qui devient, en juin 2013, l'épicerie du Petit Jardin. Un comptoir et un auvent en bois, une cour pavée de blanc à l'abri sous la muraille du château, une petite mare, des dizaines de variétés de plantes, un salon de jardin très bien exposé en ce bel après-midi de printemps. Thomas, le visage baigné de soleil et les yeux plissés sous l'effet de ses rayons, prend la suite des présentations.
Une épicerie jardin, qui est juste au pied du château. Une épicerie en construction, en fait, hein, puisque pour l'instant, j'utilise le jardin comme un magasin. Mon activité va se développer aussi dans le petit bâtiment qui est accolé, dans la petite maison, pour faire une épicerie classique, pour avoir des pâtes du riz. Parce que je vends pour l'instant essentiellement des légumes et quelques produits, légumes et fruits, bio et le plus locaux possible. Mais j'ai aussi des oranges, des bananes, etc. Le principe, c'est que moi, je vais chercher tout ce que je peux aller chercher, je vais chercher. Voilà. Alors, j'ai un maraîcher principal, c'est Alexandre de la Crompe à Saint-Luban-en-Vergonnois. Monsieur et Madame Doré à la ferme du Moulin à Houck. Les pommes et les poires, ça vient du Loiret. Voilà, l'idée, c'est tout ce que je peux prendre en local, je vais chercher, en fait, aussi. Ça, c'est un élément important. Et j'essaye de les présenter dans le cadre le plus agréable possible, et donc dans ce petit jardin et dans cette petite maison que j'essaye d'aménager.
D'accord. Quand tu dis tu vas chercher, ça veut dire que pour toi c'est important d'avoir un contact avec les producteurs, c'est ça ?
Oui, et puis je pense que ce qui m'intéresse c'est de restaurer le lien. On veut souvent supprimer des liens dans les circuits courts en disant voilà, il faut supprimer les intermédiaires. Et moi j'avais une autre vision, je pense que... Il y a un proverbe qui dit que la force de la chaîne est dans le maillon. Et pourquoi supprimer un intermédiaire s'il apporte quelque chose ? Et puis, dans la compétence de l'épicier, d'aller chercher, ça permet aux paysans d'être sur ses terres. Et je pense qu'ils travaillent déjà suffisamment. Et le fait d'aller chercher peut les soulager. Et puis, bon, c'est aussi un plaisir de voir où sont produits les fruits, les légumes. Et ça me permet, en discutant avec eux, d'apprendre des choses et de transmettre après cette culture aux clients. Et qui mieux placé que le paysan pour savoir ce qu'on fait de son légume, etc. De savoir, voilà. Et ça, je pense que c'est ça qui m'intéressait, de restaurer ce maillon de l'épicerie. Voilà. Et de dire quelle est la valeur ajoutée, entre guillemets, de l'épicier.
Donc cette valeur, en quelques mots, c'est quoi ? Information ?
Alors, le côté culturel, l'information, les heures d'ouverture, l'accessibilité avec ces heures d'ouverture grandes et puis de proximité. Et puis, je reviens sur cette histoire de connaissance, comment on utilise ces produits et d'où ils viennent, cette connaissance sur les produits. Voilà, du début jusqu'à la fin, où ils sont cultivés, par qui, comment. Moi, c'est à moi, je pense, d'acquérir des compétences pour pouvoir l'expliquer. J'ai des jeunes qui, a priori, avant de venir, n'ont jamais cuisiné un légume. Et c'est très intéressant de pouvoir les accompagner petit à petit, chaque semaine, dans la découverte de légumes qui, moi, ça me semble évident, mais qui, pour eux, je vois bien que même des gens pas tout jeunes, 25-30 ans, n'ont jamais cuisiné de légumes de leur vie. Je pense que c'est une nourriture qui est accessible à beaucoup plus de gens eux-mêmes ne le croient. C'est-à-dire que le bio, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais effectivement, on ne s'en rend pas forcément compte. Ça demande des choix. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'apporter ma pierre en disant, voilà, moi au moins, je peux mettre à disposition des fruits et des légumes, ou bientôt peut-être du riz, des pâtes, au plus grand nombre avec un prix accessible.
Les fans, c'est comme les fans de betterave ou les fans de navet, on les cuit et elles sont très bonnes, comme un épinard quoi. Okay. On les fait juste tomber dans la poêle. Là, tu l'épluches un peu parce que la peau elle est un peu fibreuse. Et alors soit coupé en lamelles avec un petit peu de sel, voire un peu d'huile d'olive, un peu de citron comme un apéritif ou comme un encas. Mm-hmm. Et autrement en cube. Okay. À la croque au sel, comme un radis.
Je vais tester. Pourquoi ? Peut-être en 32, du coup, ça va pas me faire beaucoup.
Pourquoi vous venez faire vos courses ici ?
Parce que c'est un endroit vraiment sympa, avec des produits locaux. Thomas, qui est ici présent, est vraiment de bons conseils. Il aime ses produits, il sait bien les présenter. Donc, et puis les prix sont attractifs aussi, donc tout bon, quoi.
Qu'est-ce qui différencie vraiment dans les faits, concrètement ? Ce lieu d'une grande surface. Pourquoi les gens vont plutôt ici que dans une grande surface ?
Déjà, c'est moins cher.
Alors, j'espère pour la qualité des produits. L'idée, c'est de les rendre accessibles. L'accessibilité aussi, parce que beaucoup de clients sont quand même des clients du voisinage. Donc là, je pense que ça leur évite, évidemment, de prendre leur voiture. Voilà, puis après, il y a, j'espère, aussi le lieu. C'est un commerce de proximité, donc les gens se rencontrent. Et ça, on voit que ce lien, il est très fort. Alors, je m'en doutais un peu, mais tant qu'on n'exerce pas cette activité, on ne voit pas à quel point c'est important. Et que si les centres-villes sont déserts, c'est parce que d'une part, il y a beaucoup moins d'habitants et puis parce qu'il n'y a plus de commerce de proximité. Si on se déplace pour acheter des chaussures, on rentre, on sort et puis on a une relation avec le vendeur de chaussures. Mais alors que dans un commerce de proximité où les gens viennent, reviennent, alors les gens s'échangent des recettes, les gens discutent, se revoient et puis surtout c'est quelque chose qu'on pratique quasi quotidiennement. La relation se crée rapidement.
Et concrètement, pourquoi la relation elle se crée dans un lieu comme ça et pas dans un supermarché ?
Parce que c'est une relation d'homme à homme ou d'homme et de 1 à 1. C'est-à-dire que un supermarché, d'une part, c'est énorme. Là, c'est un lieu qui est petit. La relation, elle est obligatoire. C'est peut-être ça aussi qui peut angoisser certaines personnes. L'anonymat. Et c'est d'ailleurs une des réussites du supermarché et on l'entend souvent. Les gens ont été très contents de cet anonymat qui est né dans les années 70, 80, 90. Se dire, je vais au supermarché, personne ne sait ce que je mange. Alors que la relation avec l'épicier dans les villages était très forte, presque trop. Alors cet anonymat recherché est devenu maintenant quelque chose que les gens fuient, puisque, pas tous évidemment, parce que c'est quelque chose qui demande aux gens de s'investir aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, on dit bonjour, évidemment, on discute, évidemment, on échange. C'est pas non plus un lieu très neutre, même si je ne distribue pas de questionnaires à mes clients, mais il y a forcément une relation qui se crée, obligatoirement. Alors, dans beaucoup de groupements, dans les AMAP, dans les choses comme ça, il y a de la sociabilité qui se crée, mais souvent un peu dans l'entre-soi, quoi. Alors que là, le magasin est ouvert de temps en temps, et les gens qui poussent la porte, c'est le quotidien, quoi. C'est des gens qu'on n'a pas choisi, entre guillemets, heureusement. Et c'est de là d'où naît l'échange. Alors que dans plein d'endroits où, dans une AMAP, on va c'est des gens qui sont déjà convaincus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller vers les gens qui ne le sont pas.
Nous y voilà. Par ici, messieurs.
Respire. C'est gentil, hein.
Vous voyez, tout ici se passe au grand jour.
Et même la nuit, monsieur Brucho.
Encore plus, portes et fenêtres largement ouvertes.
Salut, Broubrou.
Tiens, salut, Raph. C'est le concierge, Raphaël.
Il est pas fier, hein.
Ah, parce qu'il m'appelle Broubrou. Ici, monsieur Fouvreau, c'est une grande famille. D'ailleurs, Raphaël m'a tenu sur ses genoux.
Mais il est beaucoup plus jeune que vous, voyons.
Et alors ? Grande famille, je vous dis.
Je vois.
Par ici.
Ouais. Viens de là.
Oui, vieux.
Voici les ateliers. Alors maintenant, vous allez comprendre. Nous faisons amener ici des monceaux de légumes que nous traitons à l'aide de procédés spéciaux.
Pas très bien.
Mais si, c'est tout simple. Voyez-vous cette machine?
Oui, oui.
C'est une réductrice.
Une quoi?
Oui. Nous réduisons par voie de déshydratation tous les légumes et les ramenons ainsi à un volume extrêmement réduit. D'après vous, qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, je sais pas, des noisettes.
Ah non, ce sont des raisins, ça, mon cher.
Des pépins.
Non, des œillets.
Des choux-fleurs, messieurs, d'énormes choux-fleurs. Oui. Ces têtes d'épingle-là. Des tomates, ces billes minuscules, des pommes de terre, des haricots, des carottes, des navets...
Incroyable.
Inutile de vous énumérer les avantages du système. Légèreté, économie, facilité, car ces légumes ainsi réduits à leur plus simple expression reprennent leur volume normal en les mettant simplement à chauffer au bain-marie ou au bain de siège. Prenez, remplissez vos poches, vous n'avez pas mangé pour 10 ans. Allez, Black. Mais il y a mieux par ici. Voilà, la machine de réduction totale.
Oui.
Quoi ? Par système de déshydratation et de désoxygénation. Ben, voyez-vous même.
Mais dites-moi, c'est de la poudre.
Exactement. Je vais vous faire une démonstration. Oui. Tenez. Voilà. Alors, je prends une pincée dans ce récipient. Sur le réchaud, 2 gouttes de notre produit spécial. Et hop, voyez ?
Par exemple, un melon.
Un melon. Et quel melon, hein?
Oui, messieurs, un melon réduit en poudre et reconstitué.
Oh, et dites, cette autre poudre-là, qu'est-ce que c'est, ça?
Ah, de l'eau.
De quoi? De l'eau.
Oui, enfin, de la poudre d'eau. Voyez, une pincée que je délaie dans 10 litres d'eau. Là, je verse le tout dans l'orifice de cette machine. Là, je la mets en marche. Je coupe le courant et...
Oh,
ciel!
Un verre d'eau!
Oh là là,
c'est inouï! Alors non, vraiment, félicitations!
Monsieur Brochu!
Bravo, monsieur Brochu!
Nous sommes émerveillés!
Oh, épatant, hein!
Comment je pense que des hommes comme vous... Vous n'êtes pas décoré, monsieur Brochu?
Je suis officier du mérite agricole et commandeur du mérite une paire de claques, mais...
Mais vous valez mieux que ça, monsieur Brochu!
Oui, il faut le décorer!
Mais j'en fais mon affaire!
Moi, je pourrais décorer son appartement, si vous voulez,
mais par exemple, pour commencer... Oui. Alors, au revoir, monsieur Brochu. Et encore une fois, tous nos compliments, et continuez à faire, comme vous le dites, de l'excellente besogne!
Et même, vous voyez, nous vous avons trouvé, Black et moi, un slogan, monsieur, en votre honneur, monsieur Brochu!
Oh, vraiment, je suis confus. Lequel? Voilà.
Fort comme des enclumes, gras, ça poudrit légumes.
L'usine Poudrit Légumes par Pierre Dac et Francis Blanche, extrait de Signé Furax, feuilleton radiophonique loufoque diffusé sur Europe 1 dans la deuxième moitié des années 50. On retourne tout de suite chez Thomas Grappi dans son épicerie du Petit Jardin. Ses produits locaux attirent de plus en plus de Blaisois séduits par ce lieu paisible et désireux de connaître l'origine de leurs légumes. Pour Thomas, l'épicier de quartier doit être un pont entre producteurs ruraux et consommateurs urbains. Son but, convaincre ses voisins de quartier de revenir vers des producteurs locaux aux pratiques vertueuses. Pas vraiment votre commerçant classique. Historien de formation, Thomas a beaucoup travaillé sur l'évolution des modes d'alimentation et de consommation. Faire revivre l'épicerie de quartier, c'est pour lui réinventer le passé, pour répondre à des enjeux bien contemporains. Ce sont ses origines familiales et son parcours académique et professionnel qui l'ont conduit à être sensible à ces questions. On l'écoute.
Dans le Limousin, j'avais une grand-mère qui était cantinière et qui faisait manger de manière très simple mais très familiale. Donc un milieu modeste, mais avec une cuisine avec des produits de grande qualité. Or, je voyais bien que ce monde était mort. Vraiment, l'agriculture était en train de changer, avait disparu. Les produits étaient encore un peu accessibles, mais parce qu'elle en faisait beaucoup dans son jardin et que finalement, en vieillissant, évidemment, elle en faisait de moins en moins. Que les commerces là-bas avaient quasiment tous disparu et que voilà. Donc j'ai vu ces plats de pauvres, cette nourriture du quotidien qui était la mienne par mes grands-parents, c'est-à-dire une nourriture liée à la cueillette, à la pêche et au jardinage, disparaître complètement. Et maintenant pour la retrouver, et bien sûr on ne retrouve jamais le même goût, mais ça c'est la Madeleine de Proust, on doit aller manger dans un restaurant étoilé, quoi. Donc c'est absurde de se rendre compte que tous ces produits du quotidien, on n'y a plus accès parce qu'on a détruit ces circuits qui permettaient de, et cette manière de vivre. Alors Moi, l'idée, c'est pas de revenir en arrière. C'est comme le fait de faire disparaître l'épicerie, enfin de faire réapparaître l'épicerie, c'est pas un retour en arrière. C'est plutôt comment on peut essayer de comprendre pourquoi ça a disparu et pourquoi ça renaîtrait. L'idée, c'est quand même d'être avec son temps. Je suis aussi, j'ai pas encore de site internet, mais enfin sur Facebook. Où l'idée, c'est aussi de les gens ils me commandent par mail, je commande par mail. Voilà, l'idée, c'est pas un retour en arrière.
D'accord. Et donc, si je fais le lien, c'est finalement la recherche de ce monde perdu de tes grands-parents qui t'a conduit vers l'histoire, puis l'histoire qui t'a fait te rendre compte qu'avant il y avait deux épiceries par rue, qui t'a fait fonder une épicerie, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Alors presque, mais je vais devoir 40 euros pour la consultation. Oui, on peut. Moi, je pense qu'effectivement, on peut faire ce lien. Il y a des images, hein, les images qui vont être aussi celles de construction, parce que par exemple, l'architecture aussi a un rôle très important, les paysages aussi beaucoup, et on peut les comparer maintenant avec les paysages des zones industrielles. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ce monde disparu ou perdu, il est intéressant d'abord, ça fait pas très longtemps qu'on l'a perdu, et quand on voit qu'en quelques années, et surtout vers quoi on tend, c'est-à-dire qu'on peut quand même penser que les gens, enfin que l'être humain pendant 99% de son temps a passé son temps à essayer de chercher à manger toute la journée et à faire à manger, et que c'était une problématique quotidienne, que encore dans les années 50, la moitié du budget familial était consacrée à la nourriture. Maintenant, on est à 14%, 13%, 14%, 15%. Et finalement, cette fois, c'est l'excès de nourriture ou la mauvaise nourriture qui nous précipite vers la tombe. C'est complètement absurde. On voit que dans le monde entier, on produit déjà assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Et finalement, les choix, puisque faut bien, ce sont des choix, même si, font qu'on ne nourrit pas tout le monde. Donc on sait déjà que le système agricole actuel, qu'on nous vend comme pérenne et comme étant nécessaire pour pouvoir nourrir le monde, va à la catastrophe. Alors qu'on sait très bien, et des gens comme Marc Dufumier, l'agronome, le disent, qu'on peut nourrir trois fois la planète, peut-être avec une nourriture bio. Donc je pense qu'il faut d'abord regarder dans son jardin, et c'est à nous de faire ces efforts-là. Et il y a plein de raisons qui le poussent. Hein. Donc moi, les raisons pour lesquelles je suis là sont finalement des raisons propres et qui ne sont pas si importantes que ça, mais par contre, pour l'avenir, on sait que c'est capital.
D'accord. J'insistais un petit peu sur les raisons propres, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de cette relation ville-campagne, d'avoir ces individus qui ont cette histoire par ailleurs, dont les parents ou dont eux-mêmes d'ailleurs sont allés en ville pour s'orienter vers une carrière académique et puis après, soit directement après leurs études ou soit après un début de carrière. Et retourne vers une activité, soit un retour à la terre, soit une activité plus directement en lien
Tu as raison.
Avec leur territoire.
Oui, non, mais
chez toi, qu'est-ce qui a motivé ça personnellement?
Je pense que la relation au travail telle que l'on a dans notre société, c'est une relation malsaine, actuellement. Enfin, moi, c'est la conclusion que j'en tire, aussi bien dans de nombreuses entreprises que dans l'administration. Enfin, les comportements dans l'entreprise sont devenus complètement incompréhensibles. Enfin.
Et toi, c'est ton expérience personnelle?
Oui, ça, c'est mon expérience personnelle. Enfin, dans les centres d'appel, notamment pour un travail d'étudiant que j'ai duré longtemps, enfin, ce que j'ai vu est proprement incroyable. Dans l'administration, on retrouve des situations où le harcèlement est monnaie courante. C'est complètement incompréhensible. Donc, après, voilà, on se retrouve, et je pense que je ne suis pas le seul à m'être heurté à ce genre de difficultés. Et puis aussi, le fait d'être dans un bureau, au bout d'un moment, effectivement, on a envie aussi, avec les échéances qui arrivent, l'histoire de transition, on a envie de participer, on a envie d'apporter sa pierre. Enfin, moi, j'ai envie d'apporter ma pierre, quoi. Effectivement, c'est pas dans ce que je faisais avant, même si ça m'intéressait beaucoup, que je trouvais le moyen de m'épanouir, en tout cas.
D'accord. Et tu parles à la fois du public et du privé, c'est parce que tu as pratiqué les deux?
Oui. Ah oui. Ah oui.
Et pourquoi apporter sa pierre dans le commerce et pas dans l'agriculture ou dans d'autres...
Je pense que c'est la seule chose que je suis capable de faire. pas du tout jardiner. Cuisiner, j'aime bien, mais je pense que j'ai pas envie.
À mon boulot, on m'aime. Moi, mon boulot, c'est ma vie. Je cours et me démène. Et j'écoute et j'obéis. Ne pas perdre de temps. Entrer dans la famille en attendant. Je suis poli. Bonjour, pardon. Merci. Un jour que j'aurai enfin eu ma promotion.
Légère et aliénation des employés en col blanc, c'était Hiérarchie de Carmen Maria Vega, chanteuse française née au Guatemala. Tout de suite, dernier segment de notre entretien avec l'épicier Thomas Grappi du Petit Jardin à Blois. Bientôt 4 ans après l'ouverture de son épicerie, Thomas ne parvient toujours pas à dégager un revenu suffisant de son activité. Plus militant que commerçant, il peine à s'intéresser aux aspects les plus gestionnaires de sa profession. Malgré ce rapport ambigu avec son métier, Thomas parvient à trouver plaisir et motivation en mobilisant ses compétences d'historien et en œuvrant pour faire de la consommation un acte politique.
C'est comme ça que je le vis. Après, d'autres en plus la passion de la vente et vont être capables de s'épanouir dans une relation uniquement de vente. Bon, moi, non. L'acte de vente m'intéresse pas spécialement. Enfin, il est limité. Enfin, je veux dire, c'est un métier où il y a beaucoup de contraintes. Enfin, justement, le problème de gestion est fort. Et surtout quand on n'est pas préparé. Moi, ça m'a fait commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. C'est violent, hein, comme relation. Combien tu fais ? 2,70 pièces. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une place dans un réseau, en fait, dans une chaîne. Et le commerce, finalement, c'est celui qui est le plus décrié. Et je trouvais ça surprenant qu'on veuille absolument décrier ce maillon, alors que moi, j'avais connu des épiceries qui était extraordinaire. Alors, les épiceries de Saint-Julien-les-Combes dans le Limousin, qui étaient tenues par une personne, et puis qui, voilà, chez qui tout le monde allait. Et on voit la vie que ça crée, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas dans un supermarché qu'on va pouvoir le faire, c'est pas vrai. À partir du moment où on a des actionnaires, et ben voilà, il faut satisfaire les actionnaires. Et donc là, on part dans une espèce de dérive. Alors que ben, moi, je considère le commerce plutôt comme un élément, alors pas dire des choses qui vont choquer, mais comme la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dépensons notre argent entre nous, c'est-à-dire avec les paysans locaux, avec les artisans locaux, mais aussi avec les gens qui travaillent dans le coin, et n'allons pas le donner à des entreprises multinationales avec des capitaux. Enfin, je veux dire, faut être logique, quoi. Il faut que l'argent puisse rester entre nous pour pouvoir faire marcher un commerce local. Les gens, voilà, on l'a dit, consomment acteurs, on vote avec son assiette. On voit bien qu'on sent avec les élections qui approchent beaucoup d'impuissance et de frustration des gens. Mais s'ils savaient quel pouvoir ils ont, et le pouvoir de mieux consommer, ça veut dire faire fonctionner des paysans, développer le bio. Le bio, c'est pas que l'absence de produits phytosanitaires, c'est aussi les façons de vivre, ces façons de se comporter avec aussi bien ses salariés ou ses collègues que ses animaux, que les produits. Enfin, c'est un écosystème, quoi. Enfin, et je pense que c'est ça qu'il faut restaurer. Et je pense que les gens, les clients, enfin, tout le monde a son rôle à jouer dans sa façon de consommer. Mais c'est vrai que ça reste du commerce, et du commerce brutal, c'est brutal, effectivement, il faut trouver des produits, il faut avoir de l'argent pour les, voilà, on prend du retard, il faut avoir des clients, on les attend, ils viennent pas, voilà. Ça, il y a une dimension assez violente, auquel il faut être préparé. On se heurte là à quelque chose où il faut, ça demande des compétences qui ne sont pas forcément très complexes, mais qui demandent de se faire violence. Et moi, je sais que je n'étais pas préparé à cette activité commerciale. Je la découvre complètement, quoi. Donc moi, je l'ai découverte peut-être un peu trop tard et je ne me suis pas assez préparé à cette formation, enfin à ce métier de gestionnaire, puisque c'est un métier à part entière et qu'il faut exercer en même temps et à temps plein autant que celui de commerçant. J'avoue que effectivement, celui de commerçant, de la vente ou d'aller chercher les produits me plaît beaucoup plus. Et c'est pour ça que il faut que j'intègre une structure, ou je souhaite intégrer une structure coopérative pour pouvoir me décharger de cette partie-là, parce que je me rends compte que je ne suis pas fait pour ça et que j'ai beau essayer de me faire violence, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis on peut très bien être épicier et puis avoir toujours le goût de l'histoire, d'abord, à titre personnel, pour l'instant j'ai peu de temps disponible. Mais le jour où j'en aurai, ça m'intéresse toujours. Et pour le plus directement sur l'activité, l'historien, c'est quelqu'un qui fait de la recherche. Souvent en archives, là, j'ai pas besoin d'aller en archives pour travailler sur les légumes, mais ça me permet d'aller chercher, d'aller rechercher. Et pour le coup, moi, j'ai un goût particulier, non pas pour la culture des légumes, mais pour la culture sur les légumes. Voilà, j'aime bien connaître l'histoire des produits et leur découverte et depuis quand ils sont cultivés, etc. Voilà, ça, je pense que ça fait partie de ce que j'aime faire dans ce métier-là, pour le coup. Et même chose sur l'alimentation, comment on mangeait avant et comment on mange maintenant. Mais là aussi, c'est pas un retour en arrière, c'est comment on peut manger mieux actuellement avec les connaissances qu'on avait. Qu'on a peut-être un peu trop oublié. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça.
Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Feuilles Vives. Dans ce reportage, nous nous sommes intéressés à l'épicerie du Petit Jardin, située dans les petits degrés du château de Blois. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast dans la rubrique Feuilles Vives du site studiosef.fr. Vous y retrouverez des informations pratiques sur l'épicerie de Thomas Grappi et des renseignements complémentaires sur les agriculteurs, artistes et auteurs cités au cours de notre entretien. Merci et à bientôt.
Quelle belle vallée, avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers.